Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Les lives, on court ensemble. Ça, c'est, j'ai commencé pendant le confinement. Parce que je me disais, chacune et chacun, et on est tous chez nous et on fait rien ensemble. Donc j'ai commencé pendant le confinement avec une trousse à moi. On a été 2000 en même temps. Les commentaires, je ne pouvais même pas les lire. C'était la folie. Mais ce que j'aime bien dans le live, c'est que je peux donner vraiment des astuces couture que tu ne peux pas donner dans un patron. C'est-à-dire que moi, mes lives, ils durent très longtemps. Je coupe en session de 2 heures. C'est gratuit, ça, c'est, j'y tiens et c'est très important. Et les gens cousent en même temps que moi et après, ils m'envoient les photos de ce qu'ils ont fait. Je trouve ça trop bien, en fait. C'est comme si c'était un atelier géant. Et vraiment, j'adore ça.
Couturières, couturiers, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interview des créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Aujourd'hui, je reçois Elodie, que vous connaissez probablement mieux sous le pseudonyme de Dodinette. Elodie a découvert la couture lors de son premier mois de grossesse et depuis ça ne l'a plus quittée et elle en a même fait son métier. Et je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie non plus de tout spoiler. Je vous laisse écouter ma conversation avec Dodinette. Bonjour Elodie, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Eh ben salut Julien. Moi simplement, je suis une couturière tout simplement. Je le dirais pour résumer. Bon, je vais rentrer dans le détail parce que ça va pas te suffire, je pense.
Ce serait bien si on pouvait discuter un tout petit peu plus, quoi.
Oui, c'est vrai. Bon, je vais être multicasquette. En fait, je suis un peu multicasquette. Moi, j'ai commencé en tant que créatrice. Donc, je créais principalement des accessoires pour bébés que je vendais en sur-mesure, liste de naissance, avec broderie de prénom, tout ça. J'ai commencé comme ça. Après, je suis devenue blogueuse, entre guillemets, enfin influenceuse, mais j'aime pas trop ce terme. C'est-à-dire que je parlais de couture toute la journée, je proposais des tutos gratuits.
Ok.
Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer des patrons plus aboutis, hein, plus de 50 heures de travail. Du coup, je suis passée sur des modèles payants. J'ai fait longtemps la double casquette blogueuse, créatrice de patrons. J'ai totalement arrêté la partie création en sur-mesure parce que j'avais plus le temps, c'était très compliqué. Et puis maintenant, je m'oriente plus créatrice de patrons. Parce qu'on ne peut pas être partout en même temps et tout faire bien. Donc voilà. Et la création, j'aime tellement ça que je ne peux pas m'en passer.
Parfait. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu as découvert la couture ? À quel moment la couture est rentrée dans ta vie ?
Alors, je vais te dire comme toi. Enfin, je crois comme toi. C'est-à-dire, bon, toi, tu n'étais pas enceinte, mais bon.
Si.
Voilà.
En si, quelque aussi. Sorte. Bah, écoute, je crois que quand on est un mec, on assume la... Enfin, on partage un peu... On ne porte pas le bébé, mais on est quand même présent et ça bouleverse pas mal de trucs aussi.
Oui, c'est clair. C'est clair. Pas physiquement, mais c'est vrai que vous êtes là quand même beaucoup.
Physiquement
beaucoup.
Aussi, hein, personnellement, j'ai pris quelques kilos.
Oui, une petite couvade. Normal. Faut participer.
Exactement.
Enfin bref. Donc enceinte, j'ai commencé à coudre parce que moi je travaillais en crèche. Je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc j'ai travaillé pendant 11 ans en crèche et moi je suis tombée enceinte et j'ai eu un souci de santé. Enfin, j'avais un décollement du placenta. Donc en gros, porter les bébés, tout ça, c'était pas possible. Donc, je me suis retrouvée en arrêt au bout d'un mois de grossesse.
Pas mal.
Donc, c'est très long. C'est très long, parce qu'il te reste 8 mois quand même. Donc, j'ai cherché comment m'occuper et ma maman m'a dit, viens, on va coudre un bavoir. Et moi, je n'avais jamais rien cousu, c'est-à-dire que niveau zéro, un ourlet, je ne faisais pas. Le bouton sautait, je ne portais plus le vêtement. Enfin voilà, vraiment niveau moins 10 peut-être. Et donc, j'ai commencé comme ça, par un bavoir, sans suivre de tuto. Donc, bavoir en éponge, pose de biais et je ne savais pas coudre à la machine. Voilà.
Avec ta maman qui quand même te montrait les choses et qui t'expliquait comment faire.
Bah, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas poser de biais non plus. Hein.
Donc, total impro toutes les deux.
Voilà. Non, mais elle m'expliquait comment utiliser une machine quand même. Et puis c'est parti comme ça. Bon, j'ai beaucoup raté, hein, comme tout le monde. Et puis voilà, quoi, c'était parti. Je ne me suis plus arrêtée.
À ce moment-là, t'avais quel âge à peu près ?
Oh là là, tu me demandes de réfléchir. Là. Bon, je vais te faire calculer. Ma fille a 8 ans. Voilà. Et là, j'ai 37 ans. C'est un calcul facile à faire.
Donc, c'était en 2015, grosso, ou 2014-2015 ?
Ouais, 2013.
Ah, 2013, ok.
Ouais, elle est née en 2014, fin 2014.
D'accord.
Donc, voilà.
Et à quel moment tu vrilles ? À quel moment ça devient ta passion ? Donc, tu couds ce premier bavoir, tu rates beaucoup. Oui. Et au lieu de te dire, bon, allez, c'est relou, et de, une fois que t'as ton enfant est né, de reprendre ton travail, toi, tu décides de continuer à coudre et d'en faire ton métier.
Mais en fait, c'est malgré moi, j'ai pas choisi. C'est ça qui est drôle, c'est pas un choix, j'ai réfléchi. Donc j'ai commencé à coudre, j'ai beaucoup raté, mais moi j'aime manipuler le tissu. En fait, si tu veux, je commence à manipuler et je commence à partir en vrille, à associer plein de tissus dans tous les sens, et j'ai jamais suivi un tuto ou un patron. C'est-à-dire que je découpais du papier, je faisais des trucs, enfin bon, j'ai bidouillé. Et j'ai commencé à lui faire des bavoirs, parce qu'elle bavait énormément. Donc des petits bavoirs, tu vois, en pointe. Et donc, dans ma famille, c'est « Ah ben moi aussi j'en veux, ils sont trop bien tes bavoirs, ils baillent pas de partout, je veux t'acheter quelque chose. » Donc au début, pour la famille, on fait pour plaisir. Et puis après, on me dit « Monte une page Facebook. » « Ah, pourquoi faire ? Vous m'énervez, ça m'intéresse pas du tout, moi j'ai pas envie. » Si, fais-le. » Et de là, j'ai commencé à avoir des gens qui voulaient commander. Donc j'ai monté une micro-entreprise, j'étais donc au début de mon congé maternité, donc j'ai monté une micro-entreprise à ce moment-là, et dès que ma fille dormait, je cousais pour honorer mes commandes. Donc je me suis pas reposée du tout.
Oui, c'est vrai que normalement, quand les enfants dorment, surtout les premiers, on aime bien en profiter pour faire comme eux, quoi, pour se reposer. Ou... Mais toi, non.
Alors ça, moi, je sais pas faire. Hein.
Okay.
C'est-à-dire que se reposer, un contexte que je, enfin, un mot que je comprends pas, si tu veux. J'admets hein, qu'il faut le faire, mais non, je ne le fais pas.
Et comment ça évolue tout ça ? À quel moment tu t'arrêtes de faire des bavoirs ou en tout cas t'en fais moins pour faire d'autres petites choses et te diriger vers ce que tu fais aujourd'hui ?
Eh ben, il y a une rencontre, du coup, sur les réseaux. Qui s'appelle Jeanne-Émilie, je pense que tu connais.
Ouais,
elle
sûr.
Crée des patrons de sacs. On se rencontre sur un truc, un groupe de couture Facebook, et elle dit « Je cherche une testeuse parce que je vais faire un livre. » Je dis « Bah, pourquoi pas ?» Donc, je vais te remettre dans un contexte. Là, ça va être le côté émotion, tout ça. Donc, je suis, du coup, ma fille, elle doit avoir 2 ans. Je tombe enceinte de mon 3e. Et là, j'ai envie de créer encore une fois, et je commence à dessiner mes propres modèles. Je rencontre Jeanne-Émilie, on sympathise, je teste un patron, 2 patrons, super nana, vraiment je l'adore. Et là, elle me dit « Tu veux tester mon livre ?» Je lui dis « Oui ». Donc, je me dis « Je vais prendre du temps pour ce livre ». Et moi, mauvaise nouvelle, j'ai un souci pendant ma grossesse, 6 mois de grossesse. Enfin voilà, mon enfant n'arrivera jamais, donc drame de ma vie. Et je mets toute mon énergie dans le test du livre de Jeanne, parce que ça me tient, ça m'évite de pleurer. Et je découvre tout l'avant. Tout le patronage, tout l'association. Je ne savais même pas coudre un passepoil, hein, j'ai appris avec elle, tout ça. Et ça me fait un déclic, vraiment, j'aime ça. Et je commence à créer un blog qui commence à avoir du succès avec des petits tutos, etc. Et donc, je suis partie là-dedans parce que, si tu veux, j'ai eu un déclic à un moment. À la fin. En fait, quand j'ai eu mon 3e, quand j'étais enceinte, c'était la fin de mon congé parental pour la 2e. Et donc, il y a un moment, j'ai dû retourner au travail, en crèche.
D'accord.
Accessoirement, travailler avec des bébés, alors que toi, t'as pas le tien, c'est très, très compliqué.
Ouais, j'imagine.
Et je me suis dit que j'étais pas prête à ça. Enfin, je voulais pas subir ça. Donc, je me suis dit, bah, je reste sur mon blog, j'aime ça. Et j'ai tout arrêté et j'ai pris le risque de sauter dans le vide, en fait, si tu veux. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le sur-mesure, parce que coudre pour des bébés, que d'autres enfants à venir alors que toi, t'es en deuil, c'est compliqué. Et là, je suis passée vraiment sur le patronage à fond et j'ai créé. Plus que de raison, parce que c'est le seul moment où je ne pleurais pas, si tu veux. Donc voilà.
Oui, ça te sortait des idées noires et ça te permettait de penser à autre chose, quoi. Enfin, ou de plus penser, tout simplement.
Ouais, la couture thérapie, mais ça, je pense que beaucoup de gens, hein, en tout cas les gens avec qui je discute, qui me suivent sur les réseaux, me disent ça. Hein. C'est vraiment un moment hors du temps où on déconnecte tout.
Ouais.
Y a que la créativité, il n'y a plus que ça. Et donc du coup, c'est ça qui m'a porté, et aussi la communauté qui était là, parce qu'il grandissait au fur et à mesure. Hein. Enfin, toi, tu dois savoir ça. Plus tu proposes du contenu intéressant, plus les gens l'aiment, plus tu as envie de leur faire plaisir. Et donc, c'est un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus ils sont contents, plus tu crées, plus ils sont contents. Et voilà, et tu t'arrêtes plus, quoi.
Du coup, est-ce qu'il y a un moment où tu sens que ça commence à bien fonctionner? Est-ce qu'il y a quelque chose... J'ai l'impression que tu te lances hyper vite. Alors, il y a cet élément déclencheur chez toi qui est la perte de cet enfant. Est-ce que c'est ça qui a fait que t'as pu... arrêter. Enfin, j'ai l'impression que tu sautes un peu dans le vide. C'est-à-dire, t'as un métier qui te paye, quoi, qui te permet de vivre. T'as ta micro-entreprise où tu fais des produits pour bébés personnalisés qui, j'imagine, aussi te rémunèrent suffisamment pour vivre. Et tu t'arrêtes tout ça pour faire du blogging et proposer des patrons.
Oui. Bah, en fait, le déclic, c'est la vie est trop courte. En fait, en 2 minutes, tu peux tout perdre. Pourquoi retourner dans un travail, j'aimais mon travail, hein, mais un travail qui est très prenant, où j'avais pas cette créativité. J'ai découvert qu'elle me manquait en découvrant la couture. Moi, j'ai toujours fait des trucs de mes mains. Et pourquoi faire ça alors que ça se trouve demain, tout s'arrête et il n'y aura plus rien. Enfin, tu vois, j'étais un peu dans ce truc-là et mon mari beaucoup m'a dit, écoute, vas-y, voilà, c'est
tente
tout.
Tente l'aventure et on verra bien, quoi.
Oui, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de chômage dans ma branche, donc si ça marche pas, en 2 secondes, tu sais, dans le travail, dans le social, dans les crèches, il manque de personnel. Donc, en 2 secondes, je retrouverai du travail. Et voilà, au fur et à mesure, un pas après l'autre. Mais je n'ai pas réfléchi. Tu vois, je ne me suis pas dit, super, woman, business plan, je vais faire ci. Pas du tout. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne sais pas où je vais. Hein. Je te le dis, voilà.
Je te crois. Je te crois sur parole. Tu testes des trucs, ça marche pas. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, tu passes à autre chose, quoi.
Oui, puis c'est le plaisir que tu prends aussi, c'est le sens que tu donnes à ce que tu fais. Enfin voilà, est-ce que tu as besoin de gagner des 1000 et des 100? Pas forcément, si tu es épanoui dans ta vie, enfin voilà.
Aujourd'hui, c'est quoi ton métier?
Moi, je dirais aujourd'hui, je suis créatrice de patrons. Voilà, et créatrice d'accessoires à coudre, plus précisément, parce que j'ai développé, il n'y a pas que les patrons, j'ai développé mes propres kits.
D'accord.
Donc, sur un modèle, par exemple, que je vais sortir, je vais développer des kits que je vais couper moi-même, parce que j'aime bien rester dans l'artisanat, etc. Je délègue rien du tout. Hein. Mes mains s'en souviennent parfois. Quand les modèles plaisent, voilà. Et puis, je vends aussi du tissu au maître, en petits coupons, pour créer ces accessoires, mais pas du tout d'habillement. Donc, j'élargis ma gamme.
D'accord.
Et voilà.
Donc, en gros, tu vas proposer d'un côté tes patrons.
Oui.
Encore à côté des kits couture, c'est-à-dire le patron plus le tissu, la mercerie, tout ce qu'il faut pour coudre le sac ou en tout cas l'accessoire.
Oui, tout sauf le fil.
Tout sauf le fil, d'accord. Et encore à côté, quelques coupons de tissu pour dépanner, j'imagine. Tu ne te considères pas comme une mercerie?
Ah non, je ne suis pas une mercerie, je ne suis pas compétitive en plus. En fait, si tu veux, mon rouleau de tissu, j'achète 25 mètres, je fais des kits. Et dans le restant, je te le propose au maître, parce que si tu as envie de faire un sac, mais que tu veux te faire un truc assorti d'une autre créatrice, bah du coup, tu peux acheter le même tissu, tu vois, t'es pas bloqué. Donc voilà.
Très bonne idée.
Merci.
Non, parce que nous, on a des rouleaux de tissu ici qui traînent et que, voilà, j'ai un peu la flemme de proposer. Enfin, je saurais pas comment me proposer en ligne comme tu fais, donc je... Ok.
Bah, c'est bien, mais c'est du travail, hein, je te le dis.
Bah voilà, c'est aussi ce qui me fait... Toi, tu dis que tu fais tout, toute seule?
Moi, j'ai mon mari qui est associé maintenant dans ma boîte. Il m'aide un peu. Mais c'est pas encore son travail à temps plein. Et je fais tout, toute seule. Là, je commence à me faire aider par des micro-entreprises de temps en temps, quand j'ai des pics d'activité. Mais je peux passer des heures à couper des kits. Je peux en faire 200 en une journée. Moi, je suis un peu machine.
Mais du coup, aujourd'hui, tu fais beaucoup moins de couture que ce que t'aimerais, ou tu t'es contente de ta vie, de ton activité?
Alors, je suis très contente de mon activité. C'est vraiment chouette. Je fais moins de couture que ce que j'aimerais. Par exemple, cette semaine, je veux coudre ma nouveauté et Bah, si tu vois, je voulais le commencer lundi, et là on est vendredi, je vais pouvoir coudre cet après-midi. Parce que j'ai la casquette aussi de chef d'entreprise, parce qu'il y a de l'administratif, parce qu'il y a des partenariats, parce qu'il y a des super podcasts à faire, etc. Donc, je ne peux pas coudre H24, mais ça, je pense que c'est l'entrepreneuriat qui fait ça.
Ouais, tu es obligé de faire un peu moins ce que tu aimes pour faire en sorte que ce que tu fais continue, quoi.
C'est
que
ça.
Que ton activité continue. Mm. Est-ce que tu as une journée type ? Comment ça se passe quand tu te réveilles le matin ? C'est quoi comment se déroule une journée pour Dodinette ? Une journée un peu type, quoi.
Alors moi, ma journée préférée, ça va te faire rire. Moi, ma journée préférée, elle commence à 6h30 du matin. Ouais.
Purée.
En fait, j'aime le moment où tout le monde dort. Moi, je me fais un café, j'allume mon ordi et là, je regarde les réseaux, je regarde les commentaires des gens, je leur réponds. Il n'y a pas de bruit, je suis tranquille. Ça, vraiment, j'adore ça. Ensuite, 7h30, je passe en mode maman. C'est-à-dire que je réveille mes enfants, je m'en occupe, le petit déjeuner, je vais à l'école, au collège, tout ça. Et après, je me remets à travailler dès que je reviens. Et puis, journée type, pas vraiment. En fait, moi, je travaille, Alors moi, je suis un peu tête de mule, je fais ce que je veux, quand je veux. C'est-à-dire les impératifs, c'est compliqué, je n'aime pas ça. Je travaillais 12 ans en crèche. En crèche, c'est à 11h, on va chanter la chanson, à 11h30, rituel de lavage des mains, puis on va faire ça. Et c'est timé, en fait, toute la journée pour rassurer l'enfant. Donc moi, j'aime pas les impératifs, je pense que c'est un rejet de... Voilà. Donc ça dépend ce que j'ai à faire. Par exemple, aujourd'hui, je vais te dire, j'ai travaillé sur mon prochain modèle, donc j'ai fait du patronage le matin. Généralement, je fais mes commandes et je coupe des kits. Enfin, je fais des rasseurs de kits, mais pas tous les jours, parce que sinon, je ne fais que ça. Et j'ai 2 levées de colis par semaine, le mardi, le vendredi, donc ça, c'est mes jours de commandes. Et entre-temps, j'alterne entre les réseaux, les visuels, monter des petits trucs, les partenariats, travailler avec mes testeuses, parce que j'ai une grosse équipe aussi derrière, et puis avancer les photos des patrons. Enfin voilà, je suis tout le temps commander du tissu.
Il n'y a pas de routine, quoi. À part cette espèce de lever le matin où tu vas checker les réseaux en buvant ton café,
ouais.
Tu n'as pas de choses établies.
Non.
OK.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
C'est drôle parce que moi, je m'organise pas du tout comme ça, quoi, pour le coup. Moi, je suis beaucoup plus dans une... j'allais dire rigueur, mais alors vraiment pas. Dans une... j'aime bien justement avoir une routine et faire toujours... pas faire toujours la même chose, mais avoir toujours le même déroulé dans ma journée. C'est-à-dire, moi, je sais que le mardi, je vais tourner mon tuto qui va sortir vendredi. Le mercredi, je vais enregistrer mes commentaires. Le jeudi, je vais faire le montage. Et le vendredi, la vidéo sort, quoi.
C'est bien.
Et c'est vraiment... Bah, en fait, si je faisais pas ça, je pense que je serais pas rigoureux. Enfin, je n'arriverais pas à sortir une vidéo par semaine, voire deux parfois. Ce serait vraiment très compliqué. Mais je trouve ça hyper cool de pouvoir être un peu YOLO et que ça tourne, quoi.
Oui, après, j'apprends à m'organiser. Hein. C'est-à-dire que moi, comme c'est l'humeur du jour, etc., j'ai quand même un planning. Tu vois, j'ai une to-do list de la semaine, ça doit être fait. Mais après, dans quel ordre, etc., Sauf les rendez-vous impératifs à une heure fixée, mais sinon, oui, je fais ce que je veux. Je travaille la nuit, des fois, enfin, voilà.
Oh là là.
Oui.
Ok. Donc, tu dors pas beaucoup?
Non. Bon, là, un peu plus, en ce moment, je me force. Mais parce que quand tu dors pas beaucoup, c'est un cercle vicieux. Moins tu dors, moins t'as envie de dormir, et au bout d'un mois, tu finis lessivé, quoi.
Ouais, puis tu déprimes, et puis il y a rien qui va. Ouais.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres dans ton activité? Est-ce qu'il y a des échecs que t'as déjà croisés?
Des échecs, pas vraiment, parce que je me mets pas trop la pression. En fait, j'essaye de le prendre cool, ce qui va bien, et puis ce qui marche pas, ou les trucs, voilà, je les arrête. Il y a beaucoup de remises en question, donc je suis tout le temps en train de jongler à est-ce que je ferais ci, est-ce que je ferais pas ça. Après, la difficulté, c'est le temps. J'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux, donc il y a des activités que je suis obligée d'arrêter, notamment les tutos. Tutos gratuits, c'est important donc de continuer à en faire, mais en fait, j'ai envie, vraiment, et je commence, et j'ai d'autres trucs qui me rattrapent, mon comptable, enfin des trucs où j'ai pas le choix. Et du coup, j'en propose beaucoup moins, mais parce que je suis perfectionniste. Quand je sors un patron, je peux travailler 50 heures en une semaine. C'est-à-dire que quand je fais un truc, je suis focus, quoi. Et du coup, bah, le tuto gratuit, il faut en proposer, mais je ne peux pas passer 100 heures sur un truc gratuit parce que sinon, bah, ma entreprise ne tourne pas. Donc voilà, c'est un peu de difficulté de savoir jongler les priorités. Comme je ne suis pas trop organisée, je n'arrive pas.
Et du coup, tu as pas des regrets, mais tu as des frustrations parfois à cause de ça?
Bah, les frustrations, c'est par exemple cette semaine quand tu as envie de coudre ton nouveau truc et que tu ne peux pas. Et que t'es sur autre chose, et que t'es... Bon, il faut le faire aussi, donc tu le fais, mais tu te dis, mais là, j'aimerais coudre, en fait. Mon tissu m'appelle, il est là, il est beau, je veux le couper, et j'ai pas le temps. Voilà. C'est plus ça.
Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères en couture?
Ce que je préfère, c'est quand tu retournes ton ouvrage à la fin, et tu dis, waouh, c'est ce que j'ai dans la tête qui est sorti là, sous mes mains. C'est vraiment ce moment-là.
Donc le résultat, la toute fin, quand t'as vraiment terminé et que tu découvres ce que t'as fabriqué.
Pas la toute fin, parce que toutes les étapes, je les aime bien. Quand tu commences à voir le truc prendre forme. Parce que, enfin, moi je suis pas les patrons des autres, parce que je sais, tu vois, j'aime pas les contraintes. Donc quand on me dit fais ça, je le fais pas, je suis tête de mule. mais quand toi t'as imaginé quelque chose et que la pièce elle prend forme et tu dis oui c'est ça que je voulais. Quand t'es au quatrième proto, là je suis au quatrième proto sur une seule taille parce que j'arrive pas à ce que je veux, et avant-hier j'ai réussi à finir mon truc et je me suis dit oui, voilà, ce moment-là je trouve qu'il est top.
Et alors qu'est-ce qui au contraire te déplaît le plus en couture?
La découpe,
ah bah d'accord.
L'entoilage, ouais. Ah oui. Et en plus j'en mets partout.
Et dans les accessoires il y a pas mal d'entoilage, ouais.
C'est ça, et puis il y a pas mal de découpe aussi. Donc
mais donc quand tu découpes tes kits toi-même, c'est pas l'enfer ça?
Alors je découpe pas chaque pièce une par une. Dans un kit...
Ah, c'est les découpes de tissus directement. J'avais compris que tu découpais les pièces,
non.
Et que les gens avaient plus qu'à les assembler.
Non. En fait, je propose dans mon kit la quantité de tissu nécessaire pour réaliser l'objet. Parce que souvent quand tu vas en mercerie, le constat c'est ça, tu veux te faire un sac en simili ou une pochette, t'es obligé de prendre 50 cm. Donc déjà, t'en as pour un budget en simili. Tu sais pas si tu vas vouloir le travailler sur autre chose. Là, je te mets juste ce que t'as besoin. Bon, t'es un peu plus large, hein, parce que si tu rates ta découpe, voilà, t'es un peu plus large. Mais t'es pas obligé d'acheter un lace complet. Ou des fois, quand je fais un kit, je m'organise pour que les gens aient le moins de tissu à acheter possible. Donc je recale bien mes pièces, je change par rapport au patron, pour que ça fasse un kit pas trop cher et qu'ils prennent vraiment du plaisir sur ça. Donc c'est plutôt des rectangles et tout ça. Donc c'est plus simple.
D'accord. Et toi, ce qui te saoule, c'est de découper vraiment la pièce.
Oui, alors je vais te dire, moi, par exemple, mettons, tu as un avant de sac que tu dois thermocoller.
Ouais.
Moi, je vais pas découper l'entoilage et l'avant de sac. Je vais découper l'avant de sac, je vais le mettre sur mon entoilage, je vais mettre du coton et bim, je vais passer la presse et je vais recouper le tour de l'entoilage. Je découpe, voilà. Je suis feignasse.
Bah non. Je crois que c'est ce que j'ai vu des tutos comme ça assez régulièrement, hein. des vidéos de nanas en Asie qui font ça et qui se prennent pas la tête,
voilà.
Quoi. Qui pour le coup bossent sans patron et effectivement découpent une pièce, thermocolle ou alors même mettre la doublure en même temps et ensuite retaille l'ensemble pour avoir la forme finale, quoi. Et du coup, ne font qu'une seule découpe précise et ensuite elles ont juste à redécouper. Enfin, ça sert vraiment de la première pièce comme du patron, quoi, comme d'un patron.
Bah oui, c'est ça.
Est-ce que tu as une astuce en couture à nous partager ?
Une astuce, moi, c'est plus du matériel. C'est-à-dire que je pense que si tu n'as pas le bon matériel, surtout quand tu passes des épaisseurs, parce que moi, je passe pas mal d'épaisseurs avec ma machine, ça peut être compliqué. Du coup, ma première astuce, moi, ça a été le pied double entraînement. Ça a été ma révélation, vraiment. Il y a un moment, hein, ça fait 5 ans. Et là, j'ai découvert le pied téflon à roulette. Mmh. Et alors ça, c'est juste une bombe. C'est-à-dire que mon pied double entraînement, je ne le sors plus. Et il est tout le temps monté sur ma machine. Enfin, je trouve... ça, c'est vraiment une astuce pour les accessoires parce que quand t'as ton simili qui adhère au pied et qui avance pas, c'est vraiment énervant.
Et là, t'as plus le souci vu que ça roule dessus comme un skateboard sur du bitume.
C'est ça.
Ouais, je suis désolé pour la comparaison un peu street.
Non, c'est bien, ça fait un autre univers. Je suis pas habituée trop des mecs en couture, donc c'est bien.
Non, mais le pire, c'est que je fais même pas de skate, quoi.
En plus.
Je sais pas. Bah, non, mais j'en ai un aussi qui, oui, ça roule. Enfin, voilà, il n'y a plus de frottement du tout. Ça roule sur le tissu ou sur le simili, effectivement.
Et puis, tu démontes pas tout ton pied, parce que le double entraînement, il faut sortir ton tournevis et tout ça. Non, non.
Mais le double entraînement, tu peux le laisser en permanence, sinon.
Ah oui, mais quand tu veux monter ta fermeture éclair, comment tu fais ?
Ah oui, là, c'est plus compliqué.
Ah, il y a des accessoires, il y a plein de fermetures partout.
Pardon. Effectivement. Est-ce que tu as des projets couture ?
Ah, des projets couture, j'en ai tout le temps. Projet couture. Bah là, je prépare un gros patron.
Ok.
Alors, je ne sais pas si t'as vu. Alors, Dodinette, c'est 1001 idées. C'est-à-dire que je te propose un modèle, mais souvent, tu as un pack de variations avec, si tu veux rajouter une poche là, si tu veux changer de forme, voilà. Parce que moi, j'ai du mal à suivre. En fait, quand je couds un prototype, je le fais une fois, puis au suivant, je change, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, du coup, ça me fait mon pack de variations. Donc, ça, c'est Dodinette Global.
OK.
Et là, je sais pas, je suis inspirée. Là, je vais te sortir une collection. C'est-à-dire, j'ai un modèle et je vais te le décliner en plusieurs autres modèles. Voilà, donc je suis sur ça. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais je pense que ça va être cool.
Parfait. Et comment tu te vois, toi, dans 3, 5 ans à peu près ? Comment ça évolue, Dodinette, justement ?
Eh ben ça, c'est la question piège, parce que je ne sais pas comment je me vois. C'est-à-dire que là, j'arrive à mon maximum de charge de travail pour une personne. C'est-à-dire que j'ai que 2 bras, concrètement. Je ne peux pas faire 10 trucs en même temps. Je ne peux pas sortir un patron, faire de la com, animer les réseaux et être proche de ma communauté, faire le SAV, couper les kits, envoyer les colis, préparer les stocks de salons, parce que je fais aussi des salons, et être sur mes partenariats. Hein, tu vois, il faudrait être une pieuvre, et encore, je pense que tu n'arrives pas avec tous tes bras. Donc j'arrive à ma limite, donc c'est soit je passe un gap, et je deviens, parce que je suis en société déjà, et je deviens une société avec des employés, chose que j'ai pas spécialement envie.
Okay.
Parce que j'aime bien être proche des gens et maîtriser ce que je fais. Soit je ralentis certains trucs et puis il y aura moins de projets, mais tout aussi qualitatifs. C'est la grosse question du moment, je ne sais pas.
Toi, tu t'imagines pas chef d'entreprise. Tu veux continuer à faire un peu toute seule ou en tout cas avec ton mari, enfin en petite équipe, ce que tu fais et pas forcément aller vers quelque chose de plus gros, de plus...
Mais je pense que tu perds en... Enfin, c'est le lâcher prise, hein, c'est toujours le même problème. Si tu fais ça, t'es plus créatrice dans ton atelier, t'es plus le capitaine du bateau qui regarde où tu vas. Tu peux pas être dans la cale à remplir, à mettre du charbon pour que t'avances ton bateau. Mais si tu fais ça, tu vois pas l'iceberg devant qui arrive là. Tu vois, tu vas le prendre dans la tête. Donc, c'est pas le même travail. Et du coup, moi, j'ai travaillé 12 ans en crèche. J'ai managé des équipes de femmes. J'ai pas trop envie d'être la chef. Ah voilà, j'ai pas... Non. Donc, je réfléchis activement.
Parce qu'il y a 5 ans, en gros, t'as commencé... Je crois que ta société a été créée en 2020, mais toi, t'as commencé vers 2013, tu disais ?
Oui.
Donc, en 5 ans et 7 ans, ça a pas mal bougé. Et c'est vrai que... Pardon, je sais pas où je vais, donc je vais arrêter là.
Si, mais t'as raison. En fait, j'ai commencé en micro... comme quand on commence classique, on sait pas où on va. Donc j'ai commencé en micro.
Pour tester.
J'ai un peu cerné ce que je voulais faire pour tester et parce que c'était pratique comme statut. Et puis il y a eu le confinement. Ah, le confinement pour la couture, ça, y a eu un gros boom avec les masques, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais vraiment... Parce que je faisais des petits kits, mais alors j'achetais pas beaucoup de tissus. J'achetais, allez, 2-3 mètres, et voilà. Et j'avais envie vraiment de proposer plus de choix de tissus, etc.
D'accord.
Sauf qu'en micro, c'est pas pareil, tu peux pas récupérer la TVA, tout ça. Donc je suis passée en société, avec la boule au ventre, en mode j'ai trop peur. Mais finalement, ça m'a aidée à... Voilà, je peux faire plus de choses, je peux proposer des kits, des tissus que je pouvais pas faire avant. Donc, on verra dans 5 ans. Voilà, on verra où on en est.
Donc dans 5 ans, soit tu seras toujours toute... Enfin, pas en petite équipe, tu continueras à découper tes tissus, ou alors... capitaine de... Alors, la comparaison que tu as faite... Tout... Alors moi, je parle de skateboard, mais toi, tu parles de bateau qui coule, quoi.
Ah non.
T'as vu le Titanic il n'y a pas longtemps, ou c'est...
Non, mais c'est pour dire que quand t'es la tête dans le guidon, tu vois, tu peux pas réfléchir et tu peux pas voir devant ce qui se passe.
Ouais.
Forcément, t'es en train de pédaler. Donc, voilà. Après, mon entreprise fonctionne, je vis bien, je suis très heureuse comme ça, donc... Voilà, pourquoi changer, on verra. Je peux pas, en fait, ce qui est frustrant, c'est que je peux pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que mes clientes, quand je sors un kit, souvent, quand elles l'aiment bien, en tout cas, je peux pas être réactif et je peux pas sortir 300 pièces parce que j'ai que deux bras. Mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt du modèle, parce que tu sais, quelqu'un y a passé du temps pour que toi, tu prennes du plaisir sous ta machine. Que si c'est fait par quelqu'un d'autre ou made in China, etc., c'est pas le même produit quand même, c'est pas la même chose.
D'accord, ah, ok, je vois, t'as peut-être peur de perdre un peu cette humanité, que les gens aient plus l'impression que c'est toi qui es derrière le produit si ton équipe grandit, c'est-à-dire si tu pourrais, j'imagine, embaucher quelqu'un pour fabriquer ces kits, enfin pour les découper, pour les préparer et les expédier.
Alors je pourrais en théorie, parce que je travaille quand même chez moi, et est-ce que j'ai envie d'avoir quelqu'un chez moi toute la journée, je suis pas sûre.
Bon.
On m'a dit, hein, à la chambre des métiers, prends une stagiaire.
D'accord.
Oui, mais bon, je pourrais plus travailler en pyjama, tu vois. C'est pas pratique.
Tu peux, mais c'est un coup à se retrouver au prud'homme, quoi.
Voilà. C'est un peu plus embêtant.
C'est un peu plus embêtant. Non, mais il y a toujours moyen de déléguer, en tout cas, les parties qui te prennent le plus de temps et pour lesquelles t'es pas... j'allais dire, t'es pas la meilleure, mais peut-être que si. Mais en tout cas, t'as pas de... C'est pas parce que c'est Dodinette qui découpe mon tissu qui va être mieux découpé que si c'est un stagiaire qui va faire le travail.
Ça, c'est sûr. Après, par exemple, tu disais, ah, je sors 2 vidéos par semaine, etc. Moi, par exemple, passer ma vie devant un ordinateur, je peux pas. Moi, j'ai besoin de manipuler. Okay. Donc, en fait, c'est un peu égoïste, mais quand je coupe un kit, je prends autant de plaisir que si je le coupe. Parce que j'associe les tissus, parce qu'il y a tout ce travail créatif autour. Et de temps en temps, quand il y a des pics d'activité, j'ai mon mari qui me dit « dis-moi ce que je dois faire et je peux te le faire ». Mais en fait, je ne prends pas le même plaisir. Tu vois, de dire « fais ci, fais ça », j'aime pas. Mais peut-être que ça changera, on verra, je ne sais pas.
Très bien, incroyable. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait faire comme toi, qui voudrait monter sa marque de patron, qui voudrait... briller comme tu le fais sur les réseaux. On n'en a pas parlé, mais tu fais des lives beaucoup sur Facebook, avec beaucoup de gens qui sont au rendez-vous et qui te regardent coudre, qui cousent peut-être avec toi le même projet.
Oui, on coud ensemble. En fait, si tu veux, les lives, on coud ensemble. Ça, c'est j'ai commencé pendant le confinement, parce que je me disais chacune et chacun, et on est tous chez nous et on fait rien ensemble. Donc j'ai commencé pendant le confinement avec une trousse à moi. On a été 2000 en même temps. Les commentaires, je ne pouvais même pas les lire. C'était la folie. Mais ce que j'aime bien dans le live, c'est que je peux donner vraiment des astuces couture que tu ne peux pas donner dans un patron. C'est-à-dire que moi, mes lives, ils durent très longtemps. Je coupe en session de 2 heures. C'est gratuit, ça c'est, j'y tiens et c'est très important. Et les gens cousent en même temps que moi. Et après, ils m'envoient les photos de ce qu'ils ont fait. Je trouve ça trop bien en fait. C'est comme si c'était un atelier géant. Et vraiment, j'adore ça. Donc, ouais.
Ouais, c'est un café couture avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
Quoi. Oui, et puis j'explique vraiment tout, tout, tout. Par exemple, quand je vois marqué Help, j'arrive pas, hop, je redémonte, je remontre la pièce, comment t'as mis ça. Enfin, vraiment, c'est pas juste on fait comme ça, c'est presque un cours de couture, entre guillemets, parce que je suis pas professeur. Mais si t'es débutant, je pense qu'en venant sur un atelier, pas trop dur, hein, faut pas commencer par un live niveau intermédiaire, mais sur un live débutant, il y a plein de gens qui se lancent avec ça.
Et du coup, c'est vraiment que en ligne que tu fais pas forcément d'atelier dans des merceries ou sur des salons?
Alors, je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait chez Tissu des Ursules, juste à côté de chez moi. Je proposais des ateliers, c'était génial. Vraiment. Et comme je te dis, c'est le temps qui m'a manqué. Il a fallu choisir entre faire des patrons et ça. Et malheureusement, pour les participantes, en tout cas, j'ai choisi de faire des patrons. Après, sur les salons, je proposais des ateliers qui plaisaient beaucoup. Mon problème, c'est que je ne peux pas me couper en deux. Et quand je suis en atelier avec quelqu'un, enfin un groupe de 6 à 8 personnes, et qu'il y a des gens qui me disent « Madame, j'ai fait 4 heures de route pour vous voir et je repars dans une demi-heure, je veux discuter », je ne peux pas dire non à cette personne parce qu'elle est venue me voir et moi aussi, je suis venue la voir. Mais la personne qui est en atelier et qui a en plus réglé son atelier, bah, elle a besoin de quelque chose de qualitatif. Du coup, sur les salons, j'apprends à déléguer et j'ai une équipe qui est là et on coud mes modèles. Elles accompagnent les participantes de manière très qualitative. Vraiment, c'est super ce qu'elles proposent. Et puis, moi, je suis là après pour rigoler, admirer. Moi, je dis, je suis l'inspecteur des travaux finis. Souvent, ça met la pression quand j'arrive, mais on rigole bien, en tout cas.
Ok. Ah, c'est drôle. Tu vois que tu délègues pour pouvoir être partout.
En fait, je délègue dans l'intérêt des gens. C'est-à-dire que c'est plus qualitatif. Et les gens qui viennent me voir, ils ont un vrai temps d'échange parce que j'y tiens. Je fais les salons pas pour, proposer mes produits, mais pour voir les gens. C'est vraiment ça qui m'anime, en fait, ce lien. Mais comme les lives, ce lien qui se tisse, je trouve ça trop beau.
Très bien. Et alors, du coup, on a parlé de... Non, on n'a pas parlé de ça. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi?
Je dirais déjà de se rendre compte que c'est énormément de travail. Je pense que pour toi aussi. Hein. Moi, ça me fait rire. J'ai un ado de 13 ans. Qui pensent que YouTubeur, c'est trop facile, on se met devant un écran vert et c'est bon. Non, enfin, n'importe quelle activité, c'est énormément de travail, comme là, moi, ce que je fais. Et il faut être prêt à ça. C'est-à-dire se dire qu'on ne va pas compter ses heures, que peut-être parfois on ne va pas dormir, que des fois ça ne marchera pas. Moi, j'ai mis 2 ans à commencer à me payer. Voilà, que c'est pas parce que ça a l'air tout beau, tout rose, que c'est facile. Mais après, je pense que si on n'essaye pas, on ne le sait pas. Alors, on ne sait pas de quoi on est capable si on n'essaye pas. Et pour moi, si on veut se lancer la micro, c'est un bon compromis parce qu'on peut garder un travail salarié ou un mi-temps sans prendre de risques. Voilà. Moi, je dirais, on n'a qu'une vie. Donc, si on a envie d'essayer, il faut le faire, il faut foncer. Par contre, il faut garder un filet de sécurité. On ne quitte pas son travail du jour au lendemain en se disant « Ouh, c'est bon, c'est parti ». Non, non, non. Jamais, il n'y a jamais rien d'acquis. Hein. Même moi, je reste toujours... Ça me fait rire parce qu'il y a une dame qui a écrit ça sur les réseaux hier. Elle a marqué « Quand un patron d'Odinette va sortir, je suis toujours fébrile. » Mais en fait, de mon côté de l'écran, moi, je suis fébrile tout le temps. Parce que tu ne sais pas si ce que tu vas faire va plaire aux gens ou pas, s'ils vont s'y retrouver, si tu ne vas pas faire un patron pourri, parce que tu n'es pas à l'abri. Hein. Moi, je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas que tout est bien. Mais quand on met du cœur dans ce qu'on fait, souvent... les gens le voient. Donc, si on veut se lancer, il faut y aller, mais attention. Voilà. Il faut savoir que ça ne va pas être facile tous les jours. Mais quand on a goûté à l'entrepreneuriat, en tout cas moi, j'aurais du mal à revenir salarié parce que c'est des montagnes russes émotionnelles, quoi. Voilà. Et je trouve ça cool. Enfin, la vie, elle est faite pour être vécue, en fait. Elle n'est pas faite pour être dans un train-train. Mais je pense que j'étais pas faite pour être dans des cases. Moi, je sors de partout, c'est comme ça.
Pourquoi ça a marché, d'Odinette? Pourquoi tu as le succès que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent de ce que... Enfin, tu disais que tu ne regardais pas trop ce que faisaient les autres, mais qu'est-ce qui pour toi fait que d'Odinette, ça cartonne comme ça cartonne en ce moment, quoi?
Je pense que... Alors, les patrons sont bien. Je ne vais pas dire qu'ils sont nuls, ils sont bien, certes. Mais je pense que c'est plus le fait que moi, je ne fais pas semblant, si tu veux. Mais je suis entière, je suis comme ça. Moi, c'est noir ou blanc, il n'y a pas gris. C'est-à-dire que moi, je donne tout à ma communauté, mais je ne fais pas semblant. C'est-à-dire que je suis vraie et c'est drôle sur les salons. Les gens ensuite mettent des commentaires sur les réseaux en disant « Mais en fait, elle est comme ça, oui. » En fait, je pense que ce qui plaît aux gens, c'est d'être là pour eux. Moi, je suis beaucoup dans l'affectif. Alors, parfois, ça me joue des tours, hein, c'est normal, comme tout le monde. Mais je pense que ça marche parce que je fais attention à chacune et chacun, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont importants. Et c'est pas juste je vous propose des patrons et merci de les acheter, c'est je vous propose de la créativité, faites-en ce que vous voulez, vous l'achetez pas, je m'en fiche, mais d'être là pour les gens. Et il y a des gens qui te disent eh ben moi j'attends votre poste du matin et quand il est pas là, vous me manquez. Voilà, c'est plus ce lien là en fait. c'est pas que le sac qu'on va coudre, et puis c'est tout l'accompagnement. Je sais pas si t'as vu mes patrons, il faudrait que je t'en envoie un ou deux, peut-être pour que tu testes un de ces quatre. Mais en fait, mes patrons, c'est pas trois pages. C'est-à-dire que Dodinette, c'est l'encyclopédie. Sur un sac, je peux faire 80 pages d'explications. Faut pas les imprimer, attention. Hein. Faut imprimer que... Oui, toi, ça fait peur, mais en fait, t'imprimes ton patron et ensuite... mais moi, je suis formée à la pédagogie, je suis éducatrice de jeunes enfants. Je veux que les gens y arrivent. Donc, une étape, une photo. Sur la photo, je trace où est-ce qu'il faut coudre avec des lignes. Il n'y a pas de prise de risque. Je veux pas que les gens, ils arrivent sur un truc qui est marqué « poser un biais ». Ils se disent « mais comment on pose un biais ?» Ben non, tu cliques, tu as une vidéo. Mm-hmm. Moins bien que les tiennes, je dois l'avouer.
Non, mais arrête.
Mais elles sont là quand même. Non, c'est vrai, parce que toi, franchement, quand je te regarde, là, je décroche plus. Je trouve ça trop, trop bien. Voilà, mais Dodinette, c'est ça, c'est elle te lâche pas. Tu as envie de coudre un truc, elle va aller jusqu'au bout. Et si c'est difficile, elle va te proposer en live. Donc même si tu as peur, bah, tu viendras en live et tu vas y arriver. Et je pense que les gens... C'est pour ça, j'ai l'impression de faire un monologue là, mais c'est pas grave. Les gens, je pense qu'ils aiment ça parce qu'en fait, ce qu'ils aiment, c'est bon, être avec moi, certes, mais finir à un ouvrage en étant fier d'eux. De dire, c'est moi qui ai fait ça, j'ai réussi, valoriser les gens, leur montrer qu'ils sont capables. Je pense que c'est ça le fondement de Dodinette. C'est pas juste un patron de sac, une robe, ou d'ailleurs, pas de robe d'ailleurs, mais voilà, je pense que c'est ce qui se passe sous la machine. C'est ça l'important.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que tu aimerais aborder, à propos de ton activité, à propos de la couture, à propos des rencontres que tu fais ?
Bah, pas spécialement, je dirais... Moi, je suis génération Facebook, c'est pour ça que je suis sur Facebook. Je dirais les réseaux, je trouve ça terrible, je trouve ça trop bien, parce que ça permet, tu vois... Je vais te raconter une anecdote après, parce qu'elle est drôle, mais je trouve que les réseaux, ça permet à des gens qui sont tout seuls sur leur machine, même s'ils ne suivent pas une page ou une autre, mais sur les groupes, de se connecter et de se donner des conseils. Et voilà, ça n'a rien à voir avec la couture en tant que telle, mais moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est juste génial. Parce que la couture, bon, il faut avoir des gens... Quand t'as des gens autour de toi qui cousent, ils se disent « Waouh, ouais, c'est trop beau ce que t'as fait, ça te valorise, etc. » Mais je me dis, celle qui est toute seule, ou celui qui est tout seul, qui commence, bah, il sait pas si c'est bien, pas bien, il y a personne à qui parler. Sur les groupes, on peut vraiment... Alors, il faut nuancer aussi les groupes, hein, parce qu'il y a des endroits où c'est pas tendre non plus. Mais oui, je pense que dans notre monde connecté qui va à 1000 à l'heure, on dit souvent les réseaux sociaux, c'est pourri, nanan, il y a du harcèlement, tout ça, mais il y a aussi des belles choses. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Enfin, voilà. Et l'anecdote, je vais te la dire. L'anecdote, alors, je suis en crèche, donc matin, pas trop réveillée, fatiguée, comme d'habitude, parce que moi, je dors pas trop. Crèche parentale, je m'occupe d'un petit groupe d'enfants, Cézanne, il y a une petite musique. Et là, il y a ma collègue Sonia qui rentre avec sous le bras une machine à coudre et du tissu style un petit peu fausse fourrure léopard, tu vois. Et elle était en avant sur ça, parce que c'était il y a 9 ans. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Elle me dit, bah, je vais coudre à ma pose. Et je la regarde et je lui dis... Mais c'est quoi ça? Mais c'est trop vieillot, la couture, mais tu vas coudre, mais jamais je ferais ça. Tu vois? Et ça, c'est vraiment, vraiment drôle. Et s'il n'y avait pas eu les réseaux, jamais je me serais mise à faire un bavoir, tu vois? J'aurais dit, mais pff, pourquoi? Ben voilà.
Moi, j'ai l'impression, ouais, que les Internet, les réseaux sociaux ont vraiment aidé tout ce qui est loisirs créatifs, quoi. Il y a eu un renouveau grâce à ça, grâce au partage qu'on peut faire sur les réseaux. Et c'est vrai que je sais pas si tous les deux on avait commencé à faire de la couture il y a 20 ans, on aurait pu en faire déjà notre métier. Et je sais pas, en fait, je sais pas comment les gens apprenaient à coudre il y a encore une vingtaine d'années, quoi. Est-ce que il fallait forcément avoir quelqu'un dans son entourage qui faisait de la couture pour qu'il montre comment ça se passait, ou est-ce qu'il fallait aller forcément dans une mercerie, prendre un cours de couture, ou est-ce que bah, tu découvrais ça un peu au pif et par toi-même avec les quelques patrons burda qui devaient exister? J'ai beaucoup de mal à imaginer la vie d'avant, en fait.
C'est vrai. Mais aussi, je pense que tu commençais la couture pour réparer tes affaires, aussi, chose que j'ai jamais faite. Mmh. Et j'ai l'impression quand même... Bon, les vêtements, il y a toujours eu, mais que les accessoires, il y avait quand même beaucoup moins de choses. Peut-être les matières ont évolué aussi. Enfin, tu vois, tout ce qu'on fait maintenant, du simili, de l'enduit, tout ça, je suis pas sûre qu'il y avait tant de choses que ça. Moi, je me rappelle, j'ai été sur le salon Création et Savoir-Faire. C'était il y a, avec une copine à moi. il y a 8 ans. Et je me rappelle, j'avais croisé, je ne sais pas si tu la connais, c'est Lina Morata, qui a créé ses propres motifs et qui a imprimé sur de l'enduit.
Ok.
Et il y avait des designeuses comme ça, mais je n'ai pas souvenir qu'il y avait 1001 supports. Après, peut-être comme je débutais, je n'ai pas fait attention, mais je trouve que... Bah avec l'évolution aussi, il y a plus de matière, plus de choses en fait. T'as la créativité, elle est décuplée. Hein. Mm-hmm. C'est comme si tu fais un collier de perles, t'as 3 perles et maintenant t'en as 1200 de disponibles. Bah, tu peux faire trop de trucs quoi.
Donc c'est trop cool.
C'est trop bien.
C'est le bon moment pour faire de la couture et pour se lancer et pour essayer des choses quoi.
Oui, puis t'as le côté recyclage. Tu sais, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux vêtements ? Bah, on peut s'entraîner dedans, on peut faire plein de trucs. Enfin... On n'a jamais eu autant de déchets à... Enfin, voilà, à des vêtements. Par exemple, les vêtements de ta fille, je suis sûre que tu te dis, mais tu vois, le tas qui est trop petit, bah voilà, tu peux les donner, mais tu peux aussi les transformer. Il y a des trucs qui sont troués, tachés. Bon.
Alors que c'est vrai que c'était un réflexe qu'on n'avait pas forcément, quoi. Jusqu'à récemment, quand un vêtement était troué, abîmé, au mieux, on le recyclait en le filant aux associations. Au pire, il finissait à la poubelle, quoi.
Bah oui.
C'est vrai que maintenant, de plus en plus, les gens aussi se mettent à la couture pour... éviter de jeter et refaire des choses avec les textiles qu'ils ont à la maison et qui ne servent plus, et c'est super.
Ouais, c'est cool. Puis t'as tout le côté ressourcerie aussi, où ils te proposent des vêtements usagés, enfin voilà. Alors là, on part sur le vêtement, c'est pas mon domaine, plus le tien, mais...
Non, il peut y avoir des accessoires, il y a des mecs qui font des... Enfin, des mecs, pardon. Je dis des mecs, mais ça se trouve, il y a autant de nanas dans ce domaine-là, qui reprennent, j'ai vu ça, des... comment ça s'appelle, des badges publicitaires pour faire des sacs. Il y a des mecs qui font qui réutilisent aussi des toiles de montgolfières, idem, pour faire des sacs, je crois. Donc, ouais. Il y a eu pas mal de... Alors que précédemment, enfin avant, toutes ces matières finissaient à la poubelle ou étaient brûlées. Enfin, c'était l'enfer, quoi.
Le gros gâchis, oui. Il y a des prises de conscience, c'est bien, c'est important.
Il y a des prises de conscience, ça passe par la couture, donc c'est génial.
Oui, carrément. Bah, même avec les masques, hein, je ne sais pas si tu as vu, on a été créatifs. Moi, j'avais une de mes testeuses, Astrid, elle a utilisé le fil de sa fille pour jouer à l'élastique dans la cour de récréation. Okay. Elle a utilisé ça pour faire ses masques, comme c'était la...
Elle devait être contente, sa
fille. Ouais, c'était la crise de l'élastique. Il y a eu la crise du zip aussi, mais voilà, oui.
C'est quoi la crise du zip ? Autant la crise de l'élastique, je me souviens parce que c'était un drame. Et vraiment, le cours de l'élastique, là, c'était mieux que le bitcoin à ce moment-là. Mais c'est quoi la crise du zip ?
Alors, la crise du zip, ça, c'est mes testeuses qui ont dit ça. C'est-à-dire que quand je leur ai sorti des patrons, elles m'ont dit « Ne sors pas un truc avec une fermeture à tester, c'est la crise du zip. » Donc moi, j'ai sorti une trousse qui s'appelle Sandra, sans pose de fermeture du coup, qui a beaucoup plu sur les réseaux pendant le confinement. Mais du coup, oui, il a fallu s'adapter aussi à ce qu'il n'y avait pas. Parce que les merceries, elles ne livraient pas au début. Enfin, en tout cas, moi, la poste ne passait plus. Donc, ça a été un vrai problème. Quoique, ça m'a permis, j'ai pu dire à mon mari, tu vois, j'ai acheté tout ce tissu, j'ai bien fait, j'ai anticipé.
On peut rester confiné à vie. J'ai suffisamment de tissu pour faire toute ma vie de la couture.
C'est ça.
C'était le bon moment, ouais, pour finir ces stocks, en effet. Au tout début, quand plus rien ne marchait, quoi.
Oui, c'est vrai.
Parfait, merci Elodie.
Eh bien, merci à toi, c'était cool comme matinée.
Couturière, couturier, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici. S'il vous a plu, alors vous connaissez, j'imagine, la rengaine. Si vous avez l'habitude des podcasts, vous pouvez laisser une note, 5 étoiles de préférence, sur les plateformes de diffusion. Je ne vais pas vous le cacher, je ne l'ai moi-même pas fait. C'est quelque chose de très, très, très relou, mais ça aide le podcast à se faire découvrir, à être mieux classé par les algorithmes et compagnie. Vous connaissez la chanson. Je vous mets en note de cet épisode tous les liens pour retrouver Dodinette. Vous allez avoir son blog, vous allez avoir sa petite boutique, vous allez avoir son groupe et sa page Facebook. Bref, tout ce qu'il faut pour la découvrir ou la redécouvrir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, 7h du matin, pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
D'ici là, je vous souhaite de faire beaucoup de couture. Bye bye.